Et vous êtes toujours avec nous sur Média. Merci à vous de votre fidélité ce matin. Et on le disait en tout début d'émission, on s'intéresse et on parle également d'une maladie dont on parle assez peu. Pourtant, l'hernie inguinale peut être handicapante au quotidien et peut même avoir des conséquences assez graves chez l'enfant et chez l'adolescent. Alors comment y faire face? On a avec nous ce matin, le professeur Mounir Haroud. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes professeur donc de chirurgie pédiatrique. Merci de répondre présent à notre invitation sur Média.
C'est moi qui vous remercie pour l'attention que vous avez portée à ce sujet-là.
Alors, on en parle assez peu, je le disais, et pourtant ça existe.
Alors, tout d'abord, il faut faire un point sur la situation, c'est que l'hernie inguinale est une malformation, contrairement à l'hernie inguinale de l'adulte, oui, qui apparaît au cours de la vie. L'hernie de l'enfant, c'est une maladie qui est due à un problème qui s'est passé avant la naissance. Et donc, c'est un canal qui existe normalement avant la naissance, qui devrait se fermer en fin de grossesse et qui ne se ferme pas. Et ce canal communique toute la cavité abdominale, tous les intestins, les ovaires avec les organes génitaux. Et cette communication normalement devrait se fermer. Et la persistance de cette communication entraîne la maladie qui s'appelle l'hernie inguinale de l'enfant.
D'accord. Alors, quels pourraient être ces premiers symptômes, docteur, ces symptômes qui devraient alerter tous les parents qui nous écoutent?
Alors, comme vous le disiez si bien dans le titre, c'est une pathologie ou une maladie qui est très fréquente, qui est connue par tout le monde, mais dont les conséquences peuvent être très graves. Le premier symptôme qui devrait alerter les parents, c'est la constatation d'une grosseur, d'une tuméfaction qui existe au niveau du pli de l'aine, juste en regard des organes génitaux. C'est une tuméfaction qui grossit lors des cris et qui diminue quand l'enfant est plus calme.
Alors, pour ces enfants à risque, est-ce que les garçons, par exemple, sont plus touchés que les petites filles?
Tout à fait, madame. Donc, les garçons sont beaucoup plus touchés par cette pathologie que les filles. Et le côté le plus touché, parce qu'il y a un côté droit et un côté gauche, oui, ça paraît d'autre de la ligne. Et donc, c'est le côté droit qui est le plus touché, à peu près à 60%.
Alors, quelles peuvent en être les causes?
La cause principale, c'est que c'est une maladie qui est congénitale, oui, c'est un problème congénital. Et donc, la persistance de ce canal entraîne, bien sûr, l'issue ou la protrusion des organes digestifs par ce canal jusqu'au niveau des organes génitaux et qui entraîne toute cette tuméfaction.
D'accord. Alors, si elle n'est pas détectée à temps, j'allais dire, est-ce qu'il y existe donc des risques liés donc à cette maladie?
Donc, en fait, c'est ce qu'on voit régulièrement, c'est que des familles qui constatent cette tuméfaction et qui n'y prêtent pas beaucoup d'importance, oui, pour eux, c'est quelque chose qui va disparaître avec l'âge. Et à un moment donné, l'intestin qui rentre dans ce canal se bloque.
D'accord.
Et ce blocage au niveau de ce canal entraîne une inflammation qui est très importante et surtout l'arrêt du transit intestinal. Le bol alimentaire n'arrive plus et c'est l'occlusion intestinale qui est connue par tout le monde. C'est l'obstruction complète du trajet des selles. Cette grosseur ou cette tuméfaction n'est pas prise en charge par les parents très tôt, entraîne bien sûr des complications qui sont très graves. L'intestin se bloque au niveau de ce canal, entraînant une inflammation importante et un blocage complet du transit intestinal. Et c'est ce qu'on appelle l'occlusion intestinale, qui est une pathologie qui est très grave et qui a un risque vital qui peut tuer l'enfant. Et donc, c'est quelque chose qui, du fait de ces complications, implique un traitement qui doit être fait le plus tôt possible pour éviter d'en arriver là. Parce que c'est quelque chose qui arrive sans que on soit alerté par,
oui,
voilà, sans qu'on soit alerté par n'importe quel signe. Et à un moment donné, ça s'arrête. Et dans la pratique courante, ça s'arrête un vendredi soir, un samedi soir. Mmh. En général, très peu de médecins qui existent en ville à ce moment-là. Ils sont en général en week-end. Et c'est à ce moment-là que les choses se compliquent. Et ça peut avoir des répercussions qui sont très graves.
D'accord. Alors, en termes de diagnostic, comment posez-vous ce diagnostic, docteur?
Alors, ce que je dis, c'est que toutes les mamans doivent examiner cette zone, ne pas avoir honte d'examiner cette zone et toute tuméfaction qui apparaît et qui disparaît au niveau de cette zone doit alerter la maman et qui doit consulter un médecin.
Donc il ne faut pas attendre, on ne le répétera jamais assez.
Il ne faut pas attendre. Dès qu'on constate la tuméfaction, on consulte et on fait un traitement rapidement, dès qu'on constate le diagnostic.
Parfait. Alors en termes de traitement, comment ça se passe ?
Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Le traitement de cette malformation est strictement chirurgical. Il n'y a pas d'autre traitement. C'est quelque chose, quand on dit chirurgie, ça peut faire peur à certains parents, surtout que c'est une malformation. Donc, on constate parfois à l'âge de un mois, à l'âge de deux mois, le problème. Et donc, pour les mamans, c'est quelque chose qui est très difficile à concevoir, le fait d'opérer un enfant à cet âge-là. Mmh. Mais c'est quelque chose, ce que je tiens à dire, c'est que c'est quelque chose qui est très facile à faire. C'est un geste chirurgical qui n'est pas compliqué. C'est une intervention qui dure à peu près une vingtaine de minutes et qui règle le problème définitivement. Que si on ne le fait pas à ce moment-là, le traitement des complications est beaucoup plus complexe et beaucoup plus grave.
Alors, est-ce qu'on peut prévenir ?
Alors, la prévention passe essentiellement par un dépistage. Ce dépistage doit être fait normalement par un pédiatre. Quand l'enfant peut avoir accès à un pédiatre ou un médecin généraliste. Sinon, le but de cette émission, c'est de mettre la puce à l'oreille aux mamans qui doivent examiner leurs enfants, alerter le médecin, lui dire comme quoi il y a une tuméfaction qui doit être traitée.
Alors vos conseils justement à tous ces parents, puisque c'est le but également, ces parents qui nous écoutent, que diriez-vous donc à ces parents afin de ne pas passer à côté de l'hernie inguinale donc.
Alors l'hernie inguinale demande une attention particulière de la part des mamans. Il ne faut pas
s'inquiéter. Et des papas aussi qui nous écoutent.
Dans notre culture, c'est essentiellement les mamans, surtout à un âge qui est très bas, dans l'âge néonatal et chez les nourrissons, c'est essentiellement les mamans qui font le changement de couche et donc qui constatent plus fréquemment ce genre de choses. Donc on va dire, il faut que les parents constatent cette tuméfaction, qu'ils aillent consulter, qu'ils n'aient pas peur du geste chirurgical, parce que le geste chirurgical est très facile à faire, ne pose pas de problème pour les chirurgiens, et que c'est le seul moyen d'éviter des complications qui peuvent éventuellement emporter l'enfant.
Très bien. Alors, professeur Mounir Haroud, je rappelle que vous êtes professeur en chirurgie pédiatrique à Fès. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci à vous.
Merci à
vous.
Et je vous dis à très bientôt. C'est un entretien réécoutable sur notre site médien.com.